Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 10 avril 2020. Aux États-Unis, ce vendredi sera fermé, histoire de laisser les cloches aller à Rome ou de laisser les œufs ressusciter, je ne sais plus trop. Sans compter que Rome est plutôt calme en ce moment et qu'ils ont mis le CEO de l'église sous cloche pour éviter que ça dégénère. Enfin, peu importe. Les USA seront fermés aujourd'hui et comme la semaine se terminait hier, ils en ont profité pour terminer la meilleure semaine de hausse depuis 45 ans. Vous noterez au passage le nombre de meilleures semaines, meilleures séances, pire trimestre, pire mois, meilleure heure et meilleure minute que l'on vient de réaliser ces derniers mois. C'est de la folie. Encore 30% de hausse en avril et on fait le meilleur mois de tous les temps et on invente le flash bear market. Hier, il y a eu des chiffres économiques, les jobless claims ont explosé encore une fois les experts se sont complètement ratés, d'habitude ils se gourdent de quelques milliers de personnes, mais là ils sont passés à la mode hardcore et ils se trompent à coups de millions. À leur décharge, nous vivons dans un tel bordel économique, financier et commercial que collecter des données et les intégrer dans un spreadsheet Excel pendant que l'on essaye d'occuper trois enfants, de promener le chien et de repeindre la clôture du jardin, ça doit pas être facile. La confiance du consommateur, selon l'Université du Michigan, s'est aussi pété la figure avec force et courage. Le chiffre n'est pas important, mais disons que là aussi, c'est probablement la pire variation négative de ces 38 dernières années, si ce n'est la plus importante depuis que l'autre a été décroché de la croix et en a profité pour inventer les vacances de Pâques et le week-end de 4 jours. Des chiffres aussi immondes que ces deux-là auraient, dans un monde normal, déclenché le pire sell-off de l'histoire du monde, mais depuis 3 mois, voilà, nous ne sommes pas dans un monde normal parce que pendant que les chiffres économiques redéfinissaient les échelles graphiques des charts avec plein de couleurs qui sont régulièrement publiées dans les journaux, la Fed annonçait un nouveau plan de soutien à l'économie, aux entreprises, aux PME, aux privés et aussi aux animaux de compagnie probablement. Ce qui advient avec la Fed, c'est que quand on croit qu'ils peuvent pas faire mieux, ils peuvent encore. On ne sait pas trop où ils vont chercher tout cet argent, puisque cette fois, on parle de 2,3 trillions de dollars de plans de soutien à tout ce petit monde. Tout le monde pourra aller emprunter de l'argent à la Fed, le tout à taux préférentiel, pour autant que l'on ait subi une chute de 30% de ses revenus sur une année. Sauf erreur. Une chose est certaine, la planche à billets tourne à plein régime. Il fut un temps où l'on parlait d'hélicoptère money, quand Bernanke arrosait littéralement l'économie avec du pognon. Mais là, on ne parle plus d'hélicoptère, mais plutôt d'escadrille d'avions de transport. Vous l'aurez donc compris, les marchés sont montés parce que soutien économique, il y a de nouveau. Encore et toujours. Toujours plus surtout. Dans la foulée, l'or s'est envolé en re-recassant sa résistance des 1700 et se traite à plus de 1740. Forcément, avec tout cet argent qui pleut sur les USA, enfin pas sur tout le monde, soit, mais avec tout cet argent qui est distribué allègrement un peu partout, autant dire que le concept de l'inflation devrait rapidement faire parler de lui. Enfin, dès que l'on pourra à nouveau sortir de chez nous pour acheter des biens de première nécessité comme des smartphones, des casquettes Louis Vuitton et des sacs Gucci. En tous les cas, le S&P 500 termine à des niveaux que l'on n'aurait même pas imaginé le 23 mars. On a tout simplement récupéré 50% de la chute déclenchée fin février. Nous affichons plus de 25% de hausse depuis les plus bas, laissant supposer que nous sommes dans un nouveau bull market, bien que l'on n'ose pas encore trop le dire de peur de se faire insulter par tous les convaincus de la baisse qui n'ont eu que 6 semaines pour en profiter et qui en veulent encore plus. Ce que l'on peut comprendre. Il est en effet clairement injuste qu'après 11 ans de bull market, après presque 4000 jours de hausse, que le bear market ne dure que 12 jours. Il y a clairement un déséquilibre. Mais ne nous inquiétons pas, dans un souci majeur d'équité, il y a plein d'experts qui viennent nous dire et nous prédire que ce n'est pas fini, en parlant de la baisse, et que le rebond dans lequel nous sommes n'est qu'un piège pour les boules et qu'une fois que tout le monde sera dedans et chaud comme la braise, on va nous sortir un truc qui va tout foutre par terre, le château de cartes dans lequel nous sommes. Le dernier expert en date, Mark Hulbert, chroniqueur bien connu sur le site MarketWatch, estime que l'on va retourner au plus bas de ces dernières semaines et il fait encore mieux, il est très précis, ça sera en août. En revanche, très peu d'indices sur ce qui va se passer entre deux. Au moins, ça laisse un peu de suspense parce que si on savait tout avant, ça vaudrait même pas la peine d'aller voir le film. Gros sujet de la journée d'hier, la réunion de l'OPEP. Alors, il y a deux façons d'observer la chose, en détail ou en survolant. Si on choisit de survoler la chose, il suffira d'observer le prix du baril ce matin, de voir qu'il est autour des 23$, on baisse de près de 8%. Et d'en déduire que la réunion de l'OPEP n'a pas forcément donné aux traders ce qu'ils attendaient et de passer à autre chose. Si l'on décide de creuser dans le détail, je vous recommande d'avaler d'abord 12 Doliprane et de relire 2 fois un traité de psychologie des marchés financiers, puis de boire 1 cubi de rosé. Ceci devrait permettre de faire passer la pilule. Donc, Les Russes et les Saoudiens se sont mis d'accord pour réduire la production de pétrole, plus ou moins de ce que l'on attendait. Mais le problème, c'est justement que nous l'attendions, ce qui veut dire que c'était dans les prix, puisque Trump l'avait annoncé dans son tweet d'il y a quelques jours. Tweet qui avait fait monter le baril de plus de 40% de façon tout à fait rationnelle. Donc, comme nous le savions, c'était juste une confirmation et que comme ça n'était qu'une confirmation, ça voulait dire que les marchés l'avaient déjà pricé et que c'était dans les prix. C'était donc une forme de déception. Sans compter que la confirmation de l'accord n'a pas vraiment été annoncée officiellement. Et puis, on n'est pas très sûr que la réduction de 10 millions de barils par jour suffise à compenser la plus grosse chute de la demande de l'histoire de l'univers et de la guerre des étoiles. Ça suffisait lors du tweet de Trump, mais là, ça suffit plus. On est peu de choses. En conclusion, les traders et les experts en pétrole, qui sont souvent les mêmes, ont été déçus, ce qui fait que le baril s'est fait défoncer, parce que l'on pouvait donc clairement déclarer que les annonces théoriques qui n'ont pas encore été faites de façon officielle sont clairement insuffisantes. Au-delà du fait que je ne comprends pas moi-même ce que j'ai écrit et que ça me fout un mal de tronche carabiné, je pense qu'il nous faudra un nouveau tweet de Trump pour que l'on y voit plus clair. Mais une chose est sûre, on en voit toutes les couleurs sur les marchés en ce moment. Pour le reste, l'Asie ne fout rien, le pétrole joue à la balle magique, la plupart des pays sont en vacances, mais comme tout le monde est bloqué à la maison, ça ne change rien. Certains marchés sont ouverts aujourd'hui et fermés lundi, et vice-versa. Nous avons donc 4 jours plutôt calmes devant nous, bien qu'actuellement le terme « plutôt calme » est largement galvaudé, puisqu'il suffirait d'un bon chiffre bien anxiogène pour tout remettre en question. Mais pour le moment, c'est plutôt calme. Dans les trucs que l'on peut retenir, un premier sondage vient de sortir et Trump se ferait défoncer par Biden si les élections seraient aujourd'hui. Franchement, je voudrais pas être américain et devoir choisir entre la peste et le choléra. Les Français ont dû faire ça il y a 3 ans et on voit le résultat. Un clown à l'Élysée qui brasse de l'air et qui sait plus comment faire pour tourner la veste sans que ça se voit. Autrement, l'Europe a finalement trouvé un deal pour soutenir l'économie dans la crise du coronavirus. Ce projet contient des plans de dépenses et des lignes de crédit. On parle de 200 milliards d'euros, mais en revanche, il n'y aura pas d'émissions obligataires. À noter la touche d'humour qui a été apportée par le ministre des Finances allemand, Olaf Scholz, ça s'invente pas, qui a dit que ce deal marquait un grand jour pour la solidarité européenne et montrait toute la force de l'Union européenne. Si, si, il a vraiment dit ça. Ne pas rire. J'espère que les Italiens et les Espagnols sont au courant de toute cette solidarité et qu'ils sont au courant qu'ils font aussi partie de l'Europe. En tous les cas, une chose est certaine, cette crise du coronavirus va et a peut-être changé bien des choses dans notre façon de vivre et de penser. Mais par contre, à un certain niveau de la politique, rien n'a changé. Ils sont toujours aussi cons et ne s'en rendent pas compte et continuent d'enfoncer le clou. On notera encore que Boris Johnson est sorti des soins intensifs et que l'on se demande quand est-ce que Macron va s'y retrouver à force de prendre des bains de foule dans le 9-3. Quoi qu'il s'en fout, il se fera traiter à la chloroquine de chez Panoramix. Mis à part ça, nous sommes en week-end prolongé. On vient de vivre le bear market le plus court de l'histoire. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour parler peut-être du bull market le plus court de l'histoire. Et si l'on en croit, en tout cas, les divers prédicateurs. Passez un excellent week-end, ne sortez pas, de toute façon on va faire très moche, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler déconfinement et distribution de masques faits en peau de lapin de Pâques. Bon week-end, et à mardi!